Chapitre 38. Didi retourna au commissariat central et s'adjugea une salle de réunion pour huit. Là, côté gauche de la table, elle disposa les comptes rendus de scènes de crime. D'abord Randy Menck, puis Jackie Knowles. Au milieu, en une longue rangée, elle plaça quatre photos de chaque assassinat comme un alignement de sets de table. Puis elle fit un pas en arrière et observa. Neil entra, dit quelque chose à propos d'un témoin à rappeler. Elle grogna, il repartit. Phil entra, dit quelque chose à propos du fait que tout le monde partait déjeuner. Elle grogna, il repartit. Elle observa encore. Elle pensait à Abigail, un bébé mort depuis longtemps. Une personnalité dissociée. Un fragment de la mémoire capricieuse de Charlene Grant. Peu importe ce qu'était Abigail, conclut Didi. L'important était de savoir qui elle était. Abigail, cheveux bruns, yeux bleus, se présente spontanément à un témoin après avoir abattu un pédophile de sang-froid, lié d'une manière ou d'une autre à Charlene Grant, donc lié aussi au meurtre de ses meilleurs amis. Le nœud de l'affaire, la pièce manquante, la raison pour laquelle il y avait eu ces 21 janvier à cette date-là. Abigail. Didi observa les photos de Randy Menck et Jackie Knowles, et plus elle observait, plus elle réfléchissait, plus elle avait la conviction d'être sur la bonne voie. C'était Abigail l'assassin. Les photos de scènes de crime sentaient leur Abigail à plein nez. Féminin, voilà le qualificatif qu'avait employé Quincy à propos de ces meurtres. Les salons soigneusement rangés, les coussins retapés, les sols impeccables. Les deux victimes auraient pu être en train de dormir, certes dans une position inconfortable, mais elles n'avaient pas le visage horrifié, le cou brutalement rompu, les jambes atrocement tordues. Même sur les gros plans, les ecchymoses sur leur gorge étaient minimes, presque délicates. L'assassin avait appliqué juste la pression nécessaire. Et les victimes n'avaient pas lutté, pas même offert un semblant de résistance. Qu'avait pu savoir Abigail? Qu'avait-elle pu faire pour être en mesure de tuer deux femmes adultes de manière aussi précise, aussi soignée, aussi douce? Pas d'agression physique. Didi marqua un temps d'arrêt, s'approcha du tableau blanc, nota cette information. Abigail ne tuait pas par goût du sang ni par cruauté. Elle ne haïssait pas ses victimes, elle ne les torturait pas, ne les mutilait pas, ne leur infligeait aucun sévice après leur mort. Elle entrait, faisait ce qu'elle avait à faire et nettoyait. Un crime presque clinique. Pas d'enjeu personnel. Didi ajouta une nouvelle ligne sur le tableau blanc. Abigail avait tué ses deux femmes, mais il n'y avait aucun enjeu personnel pour elle. Autrement, elle n'aurait pas pu s'empêcher d'accomplir les gestes classiques qui déshumanisent les victimes, taillader le visage, s'en prendre aux mains, couper les cheveux, ou à l'extrême inverse, comme les tueurs qui agissent sous l'emprise d'une pulsion irrésistible et en éprouvent ensuite de la honte ou des remords. Elle aurait recouvert le corps des victimes, le visage en particulier, comme pour cacher son crime. Mais tout cela ne répondait à aucun de ces deux cas de figure. Ni colère, ni honte. Clinique. Abigail avait tué deux femmes par pure nécessité. Elle avait fait en sorte que ce soit relativement indolore, accompli son rituel de manière simple et efficace. Et ensuite elle avait fait le ménage. Peut-être par pragmatisme là aussi, pour effacer ses traces. À moins que cela n'ait été un premier signe de remords, songea Didi. Une femme qui s'excusait auprès d'une autre. « Désolée d'avoir été obligée de te tuer, mais regarde, j'ai fait la vaisselle, retapé les coussins du canapé, passé la serpillière. » Le mobile. Voilà ce qu'il fallait à Didi. Si elle n'avait rien contre ces femmes, pourquoi Abigail avait fait cela? Par intérêt financier? D'après les rapports de Quincy, personne n'avait gagné grand-chose à l'une ou l'autre mort. Par intérêt personnel? Pour supprimer une prétendante à l'amour d'un homme, une rivale au boulot, la pom-pom girl qui venait de piquer la place de votre fille au sein de l'équipe? Là encore, rien de commun entre Randy Menck et Jackie Knowles. Elle n'était certainement pas rivale pour l'amour d'un même homme, n'exerçait pas la même profession, ne vivait pas dans le même état. Elles étaient juste les amies de Charlene, et même ce lien datait. Didi ressentit de l'agacement, nota cette information dans une nouvelle colonne. Son agacement ne fit que croître. Elle décida d'attaquer le problème sous un autre angle. Oublions un instant le pourquoi. Comment ? Comment une femme seule, car Didi était maintenant certaine que l'assassin était une femme, nécessairement comme Quincy l'avait prédit, comment une femme seule avait-elle pu en tuer une autre avec une telle facilité ? Était-elle plus grande et plus puissante ? Tout de même, quand on vous étrangle, vous résistez, vous griffez les mains avec vos ongles, vous donnez des coups de pied en arrière, des coups de coude. Même si on avait fait le ménage, il aurait dû y avoir des preuves matérielles considérables sur chaque victime. Contusions, lacérations, ecchymoses post-mortem. Il aurait dû y avoir des cheveux et des fibres piégées dans leurs vêtements, des cellules de peau et même du sang sous chacun de leurs ongles. Et les ecchymoses auraient pu leur apporter quantité d'informations. Didi en avait vu qui avaient la forme de la chevalière du criminel, d'une boucle de ceinture et même la forme d'une barrette à cheveux, clairement incrustée dans la joue de la rivale après un crépage de chignon particulièrement carabiné. Mais Didi avait beau examiner les photos encore, encore et encore, le résultat était toujours le même. Rien, rien et rien. C'était comme si Randy Menck et Jackie Knowles s'étaient simplement laissés étrangler sans réagir. Alors que la première avait eu le courage de rompre avec un mari violent, et que la seconde était arrivée au sommet de la hiérarchie de son entreprise à moins de 30 ans. Didi n'y croyait pas. Ces femmes savaient se battre. Alors pourquoi ne l'avaient-elles pas fait ? L'assassin était une femme. Drogue, se dit-elle. L'arme de prédilection de la plupart des meurtrières, Abigail avait drogué ses victimes avant de les tuer. C'était la seule explication. Sauf que Didi avait mal au crâne. Elle sortit d'abord le rapport d'analyse toxicologique sur Randy, puis celui sur Jackie. Jackie avait une alcoolémie de 0,5 quand elle était morte, ce qui était cohérent pour une femme qui avait pris un ou deux verres de vin dans un bar. Randy Menck, néant. Didi prit une chaise, se laissa tomber dessus et considéra les rapports d'un œil mauvais. Phil entra. Il avait un sachet en papier Kraft à la main qu'il lui tendit. Elle avait dû répondre oui à la question du déjeuner. Manger, pourquoi pas ? Elle les a drogués, c'est clair, dit Didi en acceptant le sachet. Elle ? Abigail ? Abigail ? La femme qui a tué Randy Menck et Jackie Knowles. D'accord. C'est la seule explication. Aucune des deux victimes n'a résisté à la strangulation manuelle. Elle les avait donc forcément déjà mises hors d'état de résister. D'accord. Sauf que les analyses toxicologiques n'ont décelé aucune drogue. Donc, Abigail ne les a pas empoisonnées.
Si, pourtant, je le sais.
D'accord. Alors, voyons les choses comme ça. Abigail les a mises hors d'état de résister avec une substance indétectable par la plupart des analyses toxicologiques. Ce qui exclut les barbituriques, les opiacés, les narcotiques. Didi ouvrit le sachet, déballa un sandwich au rôti de bœuf, mordit dedans. Donc pas d'herbe, pas de meth, pas de cocaïne, pas d'ecstasy, pas d'oxycodone, pas de vicodin. Qu'est-ce qui reste ? Phil prit une bouchée de son propre sandwich au thon et traduisit. Qu'est-ce qui te rendrait passive, mais sans laisser d'empreinte chimique ?
L'hypnose ? Suggéra Didi.
J'en doute. L'inconvénient de l'hypnose, c'est précisément qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à agir contre son gré. Se soumettre volontairement à une strangulation va généralement à l'encontre du libre arbitre des victimes.
J'aime à penser qu'elle se serait réveillée pour résister, convint Didi avant de prendre une autre bouchée de sandwich. Je ne comprends pas. Abigail a tué deux femmes sans raison apparente. Elle n'était ni en colère ni sous l'emprise d'une pulsion. Elle n'y gagnait rien d'évident à titre personnel. Elle les a juste tuées parce qu'il fallait le faire. Qu'est-ce qui est le pire, d'après toi ? Se faire assassiner ? Ou bien que ton propre assassin ne s'intéresse pas tant que ça à ta mort ? C'est juste une tâche à accomplir, tu vois.
Tueur à gage ?
Il faudrait quand même que quelqu'un quelque part ait à y gagner. Je ne vois pas ce que la mort de ces deux femmes pouvait apporter à qui que ce soit. Le seul vrai lien entre elles est Charlène Rosaline Carter Grant.
Peut-être que l'assassin y a gagné Charlène, dit Phil. Une relation avec elle, de l'attention, de l'affection, quelque chose de cet ordre.
En fait, on pense qu'Abigail est Charlène.
Ah bon ? Depuis quand ?
La fin de matinée. Les services balistiques ont établi que le pistolet de Charlène est celui qui a tué les délinquants sexuels. Ce qui signifie qu'elle a descendu les pédophiles, et comme l'assassin s'est présenté sous le nom d'Abigail lors du troisième meurtre, Charlène est Abigail.
J'ai la migraine, se plaignit Phil.
Moi aussi. Le portable de Didi sonna. Elle regarda son écran, elle craignait que ce soit sa mère, espérait que ce soit le capitaine O qui lui annoncerait l'arrestation de Charlène, mais c'était un numéro qu'elle reconnut pour l'avoir appelé la veille.
« Quand on parle du loup, » murmura-t-elle en décrochant.
« Bonjour, Charlène Rosaline Carter Grant. À moins qu'en ce 21 janvier, vous préfériez que je vous appelle Abigail ?»«
Ce n'est pas mon pistolet, » dit Charlène de but en blanc.
« Pardon ?»«
Votre rapport balistique, il ne porte pas sur mon arme et je peux le prouver. »
Comment ?
Grâce à vous. Vous avez vu mon arme au commissariat principal, vous vous en souvenez ?
Un Taurus 22 chromé avec une poignée en bois de rose. Le pistolet examiné cette nuit avait une poignée en caoutchouc. Ce n'est pas le mien. »
Didi grimaça, regarda Phil, lui fit signe de lui donner un stylo et du papier. Elle griffonna rapidement « rapport balistique », parce qu'en vérité, elle n'avait pas encore vu le rapport final. Elle n'en avait eu que des échos.
« Vous pourriez en posséder deux ?» dit-elle. « Ce n'est pas le cas. Je n'ai que celui qui est déclaré, le Taurus avec une poignée en bois de rose.
Prouvez-le.
Contactez J.T. Dillon, mon moniteur de tir. Il m'a aidé à acheter cette arme il y a un an et ça fait 12 mois qu'il me voit m'entraîner avec. »
« Ça confirme seulement que vous possédez au moins une arme avec une poignée en bois de rose. Ça ne dit pas que vous n'avez pas un deuxième 22 avec une poignée en caoutchouc. »
Il y eut un moment de silence. « C'est à vous de le prouver, il me semble. Repenchez-vous sur le rapport. Est-ce qu'il y a mes empreintes sur ce deuxième pistolet? Comme ce n'est pas le mien, il n'y en a pas et vous ne pourrez pas prouver qu'il m'appartient. Je n'ai pas abattu ces 3 pédophiles et vous ne pourrez pas prouver que je l'ai fait. »
« Vous savez quoi ? Venez au commissariat et on va débrouiller cette histoire. »
Vous savez quoi? On est le 21 janvier. Mon pistolet a disparu, je pense que votre enquêtrice cherche à me piéger et il est hors de question que je m'approche du commissariat de Boston. »
Mon enquêtrice.
Le capitaine O. C'est elle qui a donné le mauvais pistolet et qui a sans doute volé mon Taurus.
Comment ça? Votre Taurus a disparu? Celui avec une poignée en bois de rose?
Tout juste. Je l'ai caché hier en allant au travail, je...
Il y eut un silence. Didi entendit, pour ainsi dire, la jeune femme réfléchir à toute vitesse.
« Quand O et vous m'avez interrogé hier, j'ai bien vu que vous aviez l'air de penser que j'avais fait quelque chose de répréhensible. Vous me traitiez comme une suspecte, pas comme une victime. Ça m'a fichu les jetons. Je ne voulais pas me séparer de mon arme, mais je savais qu'elle était interdite au travail. Alors je l'ai cachée sous un buisson du parking, dans un tas de neige, planquée bien au chaud. »
Didi connaissait cette partie de l'histoire grâce au capitaine O.
Mais quand je suis ressortie du boulot, mon pistolet avait disparu. Et après, j'ai entendu sur le scanner de la police qu'on demandait mon arrestation, et puis des discussions sur le rapport balistique. Alors j'ai appelé le labo.
Vous avez appelé le labo de la police scientifique?
Voilà, j'ai appelé le labo, j'ai dit que j'étais le capitaine O, et j'ai demandé les conclusions du rapport. Dès que j'ai entendu la description du pistolet, j'ai su que ce n'était pas le mien. Sauf que le mien a aussi disparu, vous ne comprenez toujours pas?
Didi répondit lentement. Et si vous me le disiez vous-même?
Mais elle fut soudain saisie d'une angoisse. Elle jeta un regard vers Phil, qui écoutait la conversation avec des yeux ronds. « Le capitaine O a donné la véritable arme du crime à la balistique, » expliqua Charlène. « Un Taurus 22 semi-automatique avec une poignée en caoutchouc. Mais ce n'est pas le mien, c'est le sien. C'est elle qui avait l'arme du crime. Elle qui a tué les pédophiles, et maintenant elle veut me coller ça sur le dos. Grâce à elle, je suis désarmée, je me planque, et je suis une proie facile, justement le jour où on sait déjà que je suis censée mourir. À 20h, l'assassin de Randy et Jackie viendra m'achever, et jamais la supercherie ne sera révélée. Je serai morte. » Et le capitaine O aura en toute impunité 3 morts sur la conscience. 4, si on me compte. Et personnellement, je trouve qu'on devrait me compter.
Didi regardait le tableau blanc. Le capitaine O a descendu les pédophiles.
C'est ce que je me tue à vous dire. C'est son pistolet, pas le mien. C'est meurtre à répétition, pas les miens.
Le capitaine O s'est présenté au petit garçon sous le nom d'Abigail.
C'est ça, pour me mettre le crime sur le dos.
Pour vous mettre le crime sur le dos, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas présentée sous le nom de Charlène Rosaline Carter Grant ou Charlie? Pourquoi Abigail?
Abigail est ma sœur.
Charlène. Comment le capitaine O pouvait-elle le savoir? Silence à l'autre bout de la ligne.
Tout le monde doit mourir un jour, murmura Didi. Courage. Quoi?
S'étrangla Charlène. Qu'est-ce que ça veut dire, Charlène? Didi n'avait jamais parlé à Charlie des messages qui reliaient les 3 meurtres. Leur contenu était le genre de détail qu'un bon enquêteur garde pour lui afin d'amener le suspect à l'avouer, pas une information qu'il divulgue étourdiment. Elle entendit Charlie murmurer d'une voix absente.
« Tout le monde doit mourir un jour. Courage, petite. Courage. »
Charlène?
Ma mère. Ma mère me disait ça.
À vous, Charlène? Et peut-être aussi à votre petite sœur, Abigail?
Oh mon Dieu.
Ça, oui. Oh mon Dieu, pensa Didi. Elle regarda Phil.
Phil la regarda et ensemble ils baissèrent les yeux vers la table où s'étalait en technicolore un collage sur le meurtre de deux femmes. « Charlène, reprit Didi d'une voix impérieuse, parlez-moi d'Abigail. Il faut vous souvenir d'elle. Parce que je ne sais pas comment, mais elle a réussi à intégrer la police de Boston sous le nom d'Hélène O. Elle a abattu au moins trois pédophiles et sans doute aussi assassiné vos deux meilleurs amis. Non seulement votre sœur est en vie, mais elle vous veut du mal, Charlène. Dans quelques heures, vous serez morte si nous ne l'arrêtons pas.